Ce soir, nous avons deux parties de cette étude à étudier. Nous allons d'abord considérer les ministères dans leur caractère. Le caractère des ministères. Nous avons vu qu'il y avait deux listes, n'est-ce pas ? Une dans 1 Corinthiens 12, l'autre dans Éphésiens 4, 11, que ces listes se correspondent, mais il y a une différence, c'est que le ministère d'évangéliste n'est pas dans les deux. Alors, nous allons voir à quoi correspondent ces ministères, à quelle spécification ils correspondent. D'abord, l'apôtre, le ministère d'apôtre. En grec, c'est le mot apostolos qui veut dire envoyé. Et ce ministère occupe la tête des deux listes. Il est en tête des deux listes. Nous considérons donc, et pour d'autres raisons aussi, comme le principal, le plus important, c'est peut-être s'avancer un peu trop, mais celui qui est en plus grande lumière que les autres, qui a plus de développement, voilà. Il a plus de développement que les autres. Alors, nous voyons d'abord que Dieu le Père a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils, et nous l'avons déjà dit, le Seigneur Jésus-Christ a beaucoup insisté sur ce fait qu'il était sorti de Dieu et envoyé par Dieu. Et il a tenu à ce que ses apôtres apportent à cela une grande attention, qu'ils le reçoivent vraiment en eux et qu'ils puissent ensuite le confesser. Dieu, le Père, donc, a envoyé son Fils. Il a envoyé un apôtre, le souverain apôtre, il l'a envoyé sur la terre. Le Fils, Jésus, a lui envoyé 12 apôtres. 12 apôtres. Il a envoyé les 12 qui, avec lui, ont posé le fondement de l'Église. C'est ce que nous allons vérifier maintenant dans les textes, 1 Corinthiens 3, 10, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. » C'est Paul qui parle, donc Paul a participé à la mise en place du fondement. Mais voyons maintenant pour l'ensemble des apôtres, Éphésiens chapitre 2 et verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Le fondement des apôtres et des prophètes. Et qui sont ces prophètes? Eh bien, ce sont ceux de l'Ancien Testament qui ont préparé le travail, préparé, annoncé, et les apôtres ont mis en place en leur temps. Ainsi, Dieu envoie un seul apôtre, le Christ. Le Fils envoie 12 apôtres, et si ça s'arrêtait là, le ministère d'apôtre serait aboli, supprimé, ce que certains ont prétendu, mais ce n'est pas exact. Maintenant, le Saint-Esprit envoie les hommes qu'il qualifie en nombre illimité. Le Saint-Esprit, donc, envoie, et il envoie des apôtres, puisque dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, verset 28, il est bien spécifié que Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons des miracles, de guérir, de secourir, Donc, Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes. Si on supprime de cette liste, telle qu'elle est présentée, les apôtres, il n'y a pas de raison qu'on ne supprime pas aussi les prophètes, qu'on ne supprime pas aussi les docteurs. Là, Dieu a établi d'une façon définitive dans l'Église pour tout son temps. Et maintenant, c'est le Saint-Esprit qui envoie les hommes qu'il qualifie. Nous en prendrons un exemple dans Acte 13, versets 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Vous voyez ici que le Saint-Esprit donne ordre de mettre à part Barnabas et Saul pour une certaine œuvre à laquelle ces hommes sont appelés. Mais remarquez ceci, c'est que l'Église jeûne et prie avant d'obtempérer, c'est-à-dire de faire ce que le Saint-Esprit a annoncé par prophétie. Certainement que le Saint-Esprit a parlé ici par prophétie. Mettez-moi à part, c'était une prophétie. Et l'Église ne les a pas laissés partir sans opérer ce contrôle, en somme, de la prophétie. On a prié, imposé les mains, et la conviction s'est faite tout à fait qu'il fallait obtempérer à l'ordre du Saint-Esprit. Donc, Dieu le Père a envoyé son Fils, un seul, le Fils a envoyé 12 apôtres qui ont posé le fondement de l'Église, et maintenant le Saint-Esprit envoie d'autres hommes qui sont aussi, qui peuvent être aussi des apôtres. Après les 12 qui ont posé le seul fondement de l'Église, les apôtres ont pour mission d'établir des églises sur des territoires qui en sont dépourvus. Et à notre époque, à la fin du XXe siècle, il y a encore sur la planète bien des régions, des territoires où il faudrait établir des églises, où il n'y en a pas. Par conséquent, pour l'établissement d'églises, il faut des envoyés, des apôtres. Le texte d'Éphésiens 4, c'est un texte auquel nous reportons souvent, il est tellement important, 11-13, et qui donne la seconde liste des ministères principaux. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Ce texte montre que le ministère d'apôtre continue bien d'exister. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Là aussi, nous voyons vraiment, selon la forme que le texte lui-même prend, nous voyons qu'il s'agit d'une institution divine, définitive pour tout le temps de l'Église. Et au verset 13, d'ailleurs, il est spécifié ceci, de ce texte-là d'Éphésiens 4, verset 13, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, jusqu'à ce que nous soyons. » Donc, ces ministères, tous ensemble, sont institués jusqu'à ce que nous soyons parvenus. Et cet achèvement qui est en vue ici ne sera atteint qu'à l'heure de Dieu, c'est-à-dire quand l'Église elle-même parviendra à son terme. le ministère d'apôtre se trouve associé à ceux de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et de docteurs. On ne peut en supprimer aucun de cette liste. Il subsiste donc, si j'insiste de cette manière, sur le fait que le ministère d'apôtre subsiste autant que les autres, c'est, je vous dis, parce que certains commentateurs, auteurs, l'ont supprimé. On pensait que, à part les 12 apôtres qui ont posé le fondement de l'Église avec Jésus-Christ, il n'y en a plus eu d'autres. On ne peut pas admettre cela. Cette institution subsiste jusqu'à la fin. D'ailleurs, après les 12, deux hommes sont encore regardés comme apôtres. Alors, s'il n'y en avait eu que 12, il y en aurait eu 14. En effet, dans Acte 14, verset 14, les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements. Vous voyez que Barnabas est appelé lui aussi apôtre, tout autant que Paul. Et puis, dans Galates 1, 19, mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Donc, Jacques, le frère du Seigneur, est lui aussi appelé, nommé apôtre. Alors, voilà deux hommes, Barnabas et Jacques, le frère du Seigneur, qui sont appelés apôtres. Par conséquent, nous débordons là la liste des 12 envoyés par Jésus-Christ, et ici ce sont des apôtres envoyés par le Saint-Esprit. Il y a peut-être peu d'apôtres dans l'Église aujourd'hui, tout au moins d'hommes auxquels ce ministère soit reconnu. Cependant, notre information demeure insuffisante et notre jugement lui-même fragile. Par conséquent, ne concluons pas parce que nous ne savons pas, parce que nous n'en avons pas rencontré, nous n'avons reçu aucune carte de visite de quelqu'un mentionnant apôtre, je suis un apôtre. Si, moi j'en ai rencontré un qui était nommé apôtre, mais enfin je n'ai pas pris vraiment sa qualité très au sérieux. Mais ce n'est pas parce que nous n'en avons vu absolument aucun, tout au moins nous le pensons, qu'il n'y en a pas. Il y en a certainement. Et parmi les missionnaires, il ne peut manquer de se trouver des apôtres qui, je le répète, ont la mission de fonder des églises là où il n'y en a pas du tout. Quand nous amorçons une église en France, eh bien, nous allons chercher peut-être dans le voisinage une église voisine, nous allons chercher quelques chrétiens, ou bien nous en trouvons deux ou trois sur place, nous commençons avec ça. Nous avons toujours des ressources, n'est-ce pas, que nous allons chercher dans le voisinage, mais dans certaines régions, cela est absolument impossible. Il faut commencer à fonder une église avec personne, absolument personne. Et c'est les gens qui font cela, qui vont donc devoir d'abord amener à la fois certains, qui vont les amener à la conversion à Jésus-Christ, qui vont les baptiser, qui vont devoir les instruire au commencement, et puis les exhorter, et les remettre ensuite à quelqu'un. Ça, c'est bien, ce sont bien des apôtres qui peuvent le faire. Nous pouvons admettre que le ministère d'apôtre est difficile à préciser, et fort heureusement, le terme apôtre, n'est pas utilisé comme titre ou désignation en usage. Ce sont, je le répète, surtout parmi les missionnaires que nous pouvons les découvrir. Voyons maintenant le ministère de prophète. Notre frère rappelait ce matin que prophète signifiait parler pour Dieu. Tel est en effet le sens de ce terme. Celui qui parle, conduit par une inspiration du moment ou une révélation qui s'impose à lui, est un prophète. Celui qui parle, conduit par une inspiration du moment, je dis bien, ou une révélation qui s'impose à lui, est un prophète. Je voudrais vous rappeler que l'apôtre Paul mentionne différentes manières de parler. 1 Corinthiens 14, verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Et 14, 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Il y a ici, semble-t-il, quatre manières de parler. Une par révélation, et révélation qui peut être immédiate, ou par connaissance, c'est-à-dire en utilisant l'écriture elle-même préalablement méditée, elle-même préalablement connue, par connaissance, ou par prophétie, c'est-à-dire guidée vraiment par également là une révélation, ou par doctrine, c'est-à-dire là pour enseigner la saine doctrine de Jésus-Christ. Les prophètes sont donc eux aussi des prédicateurs. On me demandait cet après-midi quelle était la différence entre le don de prophétie et le prophète. Le prophète, lui, est un prédicateur, lui aussi. Tandis que le don de prophétie peut s'exercer par quelqu'un qui n'est pas prédicateur, qui n'a pas un ministère comportant la prédication. Le conseil de Dieu survient alors directement sur ce que l'on désire de lui. Le prophète se trouve donc là devant une église, c'est le moment de parler à cette église, de prêcher, et le prophète va adresser à l'église une exhortation, essentiellement une parole en forme d'exhortation, et son exhortation va être dirigée, conduite face aux besoins, aux nécessités ou aux difficultés du moment, sans qu'on lui ait rien communiqué, rien dit préalablement. Le prophète, étant guidé, va tomber pile sur la difficulté ou sur le besoin qui est ouvert dans l'Église. Ça c'est pratiquement, on l'a vu plus d'une fois. Plus d'une fois, moi j'ai entendu le pasteur habituel de l'Église dire ce frère qui est venu là et qui a fait la prédication, je lui avais absolument rien dit, mais il est tombé juste là sur le gros problème que nous avions. Et puis ce qu'il a dit, n'est-ce pas, a amené vraiment une solution. Alors ça c'est le ministère de prophète. Vous voyez, il ne parle pas par connaissance acquise, il en a une connaissance acquise, mais ce n'est pas cette connaissance acquise qu'il va utiliser, il va être guidé par une révélation qui lui est donnée sur le moment. Il a une connaissance surnaturelle du et il ne s'en doute pas toujours, Il ne s'en doute pas toujours. Il parle, il a l'abondance du cœur. Vous savez que l'on parle de l'abondance du cœur. C'est le cas de dire pour les dons spirituels. Il faut parler de l'abondance du cœur. Eh bien, dans son cœur se présente une abondance. Une abondance. Et il ne sait pas pourquoi, et il y a un sujet, un point particulier qui l'oblige à insister, à parler, à éclairer, à montrer toutes sortes de choses nécessaires. Et justement, c'est cela qu'il faut à l'Église sur le moment. Voilà le ministère de prophète aujourd'hui. Ce qui n'empêche pas que Dieu qui est toujours libre, nous, n'est-ce pas? Nous n'avons pas à limiter Dieu. Dieu est toujours libre, le Saint-Esprit est libre, et si quelquefois le Saint-Esprit veut utiliser le prophète pour annoncer quelque chose qui est à venir, il le peut fort bien. Ne l'oublions pas que le Seigneur Jésus-Christ a dit le Paraclet, le Saint-Esprit, vous rappellera tout ce que je vous ai dit, et il vous annoncera les choses à venir. Par conséquent, le Saint-Esprit peut très bien se servir de la bouche d'un prophète pour annoncer quelque chose à venir. En général, ce quelque chose à venir s'inscrit dans la révélation qui est elle-même déjà ouverte dans la Bible. Seulement, il éclaire un point particulier de la prophétie biblique. Et ça aussi, nous l'avons vu, c'est extrêmement intéressant. Mais le Saint-Esprit fait cela quand il le veut. Hein. Vous savez, le Saint-Esprit, on ne lui donne pas des ordres. Il faut qu'il soit entièrement libre. L'édification, par conséquent, à laquelle le prophète procède, se fait objective. Voilà, il a une exhortation, une édification ou une exhortation objective. Son objet ne vient pas, ou très peu, de la préparation à laquelle le prédicateur a pu se livrer. Il n'est pas choisi longtemps à l'avance, ce sujet, mais il s'impose et s'éclaire dans l'immédiat. Il se peut qu'au moment de prêcher, un passage de l'Écriture s'éclaire, par exemple, tout particulièrement. Et alors, dans son cœur, le prophète, n'est-ce pas, sent le besoin, il sent l'abondance. L'abondance le saisit dans son cœur, n'est-ce pas, et puis alors, il parle, il a besoin de parler là-dessus. C'est un besoin de parler sur le point particulier qui s'est éclairé dans l'Écriture, et il va faire surgir une pensée dont le Saint-Esprit permettra le juste et nécessaire développement. En général, le prophète n'explique pas l'Écriture, il n'est pas le docteur, il n'enseigne pas, pas lui qui explique, il n'explique pas l'Écriture. Il l'utilise comme base et justification du conseil qu'il délivre. Ce conseil est pleinement opportun et va droit aux plaies et aux nécessités du moment. J'ai eu l'occasion d'entendre, par exemple, enfin, quelquefois, une prédication vraiment de quelqu'un qui avait ce ministère de prophète. Et je me rappelle une fois, j'écoutais le prédicateur, et je me disais, il va fort. J'étais un petit peu inquiet au début, je me disais, ben, ouh là là, Quel point ne met-il pas sur les i, n'est-ce pas, et quelle barre ôtée. Je me suis dit, mais vraiment, vraiment, là. Alors, je me suis repris, j'ai dit, bon, c'est certainement pas lui qui charge ça, c'est qu'il est guidé pour ça. Et alors, après, n'est-ce pas, j'ai eu la confirmation par le pasteur sur place, hein, qu'il fallait ça. Il fallait vraiment ouvrir la plaie et il fallait aller droit, amener la parole de Dieu droit dans cette plaie. Et le prophète l'avait fait très exactement. Voilà, c'est un ministère glorieux. Nous avons deux hommes qui ont exercé, à notre connaissance, dans l'Écriture, ont exercé ce ministère. C'est Acte 15, acte 15, 32, Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, j'aurais dû lire un petit peu avant, au verset 30, « Eux donc, ayant pris congé de l'église, allèrent à Antioche, et ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lue, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. » Vous voyez, ils étaient prophètes, et que faisaient-ils? Là, ils exhortèrent et fortifièrent par plusieurs discours. Et ces discours-là n'étaient pas provenus d'une connaissance de l'Écriture, c'était pas un commentaire de l'Écriture, c'était des discours qui leur étaient inspirés par une révélation. Rien, bien sûr, n'empêche le prédicateur prophète d'étudier la parole de Dieu écrite et de s'en nourrir lui-même, naturellement. N'allons pas croire que parce qu'il parle par le moyen d'une révélation spontanée, il parle par révélation, comme dit Paul, il va se dispenser d'étudier les Écritures. Pas du tout, n'est-ce pas? Il doit s'en nourrir lui aussi. Il doit même aussi préparer des messages qu'il donnera ou ne donnera pas selon que l'Esprit lui communiquera. D'ailleurs, le ministère de prophète appelle tout autant qu'un autre une marche persévérante avec Dieu et beaucoup de prières. Il n'est pas plus surnaturel, le ministère de prophète n'est pas plus surnaturel que les autres, mais il l'est fortement et constamment. C'est son caractère de l'être, d'utiliser essentiellement le surnaturel d'une révélation. Mais pour en terminer avec le ministère de prophète, je dirais que conformément à ce que nous avons vu au sujet de la collégialité du ministère pastoral, et on peut dire du ministère global de l'Église, du ministère de l'Église, ce que nous avons dit là est à considérer, parce que le prophète doit être lui-même surveillé, nous avons dit surveillé et soutenu, parce que lui aussi, il pourrait dévier. Et je vous dirais que j'ai connu un cas de déviation chez un homme qui avait un ministère de prophète éclatant, mais qui ne s'est pas soumis, soumettez-vous les uns aux autres, ne s'est pas lui-même soumis et a cru qu'il pouvait marcher tout seul avec ce ministère de prophète, et il a tout cassé, il a tout abîmé. Et Dieu l'avait prévu. À ce moment-là, on travaillait assez étroitement ensemble. Et alors, il nous a vus dans une salle, mettons comme ici, peut-être un peu plus grande. Il y avait beaucoup de monde, il y avait l'église. Et puis alors, il nous a vus sortir tous les deux, lui par une porte ici, moi par l'autre porte, dans le dehors. Et dans ce dehors, c'était un parc. Il y avait un grand escalier en fer à cheval, n'est-ce pas ? Et un petit peu comme au château de Fontainebleau, là, si vous le connaissez, un grand escalier. Alors, il est monté, lui, d'un côté, et moi de l'autre, dans son songe. Et alors, il était à moitié de son escalier, quand une femme est sortie de l'assemblée, l'a appelé, lui a parlé, et lui a demandé de revenir. Et alors il m'a regardé, moi je lui ai fait signe de continuer à monter, et puis il a hésité, il est redescendu, moi j'ai continué à monter, puis on a été séparés comme ça, dans son songe c'était ça. Alors je lui ai expliqué, je lui ai dit: mon cher, vous avez écouté Hein, vous avez écouté la chair. Vous avez écouté la chair. Cette femme, nous savions très bien qui elle pouvait, ce qu'elle pouvait symboliser. Et, vous avez écouté la chair. Vous avez voulu vraiment agir à votre gré et vous avez vous-même détruit votre ministère qui pourtant était magnifique. C'est quelque chose de terrible. Alors, vous savez, on peut le dire d'une façon générale, plus le ministère est prononcé dans son caractère, plus il est éclatant, plus il est glorieux, plus celui qui l'exerce est en danger. Est en danger. C'est pourquoi, on revient toujours à ça, la collégialité est indispensable. Nous avons besoin les uns des autres, membres les uns des autres. Nous en avons besoin. Nous arrivons maintenant au ministère d'évangéliste. Le mot évangéliste est peu fréquent dans le Nouveau Testament. Nous ne le rencontrons que trois fois. Philippe, dans Actes 21:8, il figure dans la liste Éphésiens 4:11 et nous le retrouvons dans 2 Timothée 4:5. L'évangéliste, c'est le prédicateur de l'évangile, le messager de la bonne nouvelle. Mais lui, il n'est pas, comme on pourrait le croire, le véritable fondateur de l'Église. Il part d'une Église ou il est au service d'une Église pour la croissance de cette Église, pour la marche en avant. C'est un homme qui, avec son charisme, avec son ministère, ressent en lui le besoin d'annoncer l'Évangile. Vous savez ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 9:16, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Malheur à moi. Malheur à moi. » Et c'est donc un homme qui est, voyez-vous, dans cette nécessité, il est poussé par cette nécessité d'annoncer l'Évangile. Alors, il sait utiliser l'Écriture en toutes ses parties pour en retirer le message du salut. Il va vous sortir un message du salut avec une partie, par exemple, un récit de l'Ancien Testament. Au début, vous allez vous dire, comment va-t-il s'en tirer? Comment va-t-il pouvoir montrer la voie du salut dans ce récit-là, n'est-ce pas? Eh bien, il y arrive. Il y arrive. De toute partie des Écritures, lui, il est capable de faire jaillir le message du salut, tout au moins un message qui va amener les âmes au salut. Alors, à ce ministère d'évangéliste, outre le charisme tout à fait spécifique qui fait naître ce ministère, doit s'ajouter à ce ministère le don de la foi. Ça, il faut que dans les qualifications que le Saint-Esprit accorde à l'évangéliste, il y ait cela, il y ait le don de la foi. Non seulement pour que l'évangéliste lui-même soit un homme de foi, bien sûr, il le faut, mais encore pour éveiller la foi dans le cœur des auditeurs. C'est ça, chers amis, le don de foi. Pour éveiller la foi, vous pouvez prendre un homme qui sera très habile à annoncer la voie du salut, qui saura la présenter d'une façon même peut-être attrayante. Et nous savons par l'Ecclésiaste qu'il faut que la prédication soit aussi attrayante. Eh bien, prenons un homme de cette sorte, n'est-ce pas? Il va savoir présenter de façon attrayante, mais s'il n'a pas le don de foi, il n'a rien faire dans les cœurs. Il va peut-être intéresser, on va convenir de ce qu'il a dit, mais ça ne déterminera absolument aucun changement dans l'intérieur des auditeurs. Tandis que l'évangéliste pourra fort bien, lui, annoncer son message sans tellement de forme, mais il a le don de foi, et ce qu'il dira va pénétrer dans les cœurs et déterminer dans ceux-ci l'apparition de la foi, va réveiller la foi, c'est ça, réveiller la foi des auditeurs, la foi qui est là dormante, n'est-ce pas? Vous aurez par exemple le résultat comme ceci. En général, nos auditeurs, hein, à qui nous nous adressons dans le monde, ils ne sentent pas le besoin du salut. C'est ça qui est terrible. Nous sommes devant un mur d'indifférence. Ils ne sentent pas le besoin. En somme, on leur propose quelque chose dont ils ne sentent pas le besoin. Ça, c'est terrible. Terrible, ça. Alors, ils peuvent dire, oui, c'est très bien, mais moi, ceci, moi, cela, n'est-ce pas? Ils se dérobent. Mais s'il y a un évangéliste et qui a le don de foi, hein, eh bien, ça va changer. Ça va changer. À ce moment-là, ils vont sentir en eux un besoin. Ils vont se sentir alertés. Ils vont avoir le besoin. Ça, c'est précieux dans le ministère d'évangéliste. Si un évangéliste n'a pas ça, il ne peut pas être un évangéliste très efficace. Il faut donc que cela. Et puis, il faut encore ceci. En plus du don de foi, il faut le don d'opérer des actes de puissance. Un évangéliste doit avoir ce don d'opérer des actes de puissance, et notamment des guérisons. Quoi qu'on ait dit, quelles que soient les doctrines qui sont elles-mêmes souvent différentes de l'une à l'autre, n'est-ce pas, mais ça ne nous intéresse pas, nous pouvons affirmer ceci, c'est que le ministère du Seigneur Jésus a été l'implantation des divers ministères. Il contenait lui-même les divers ministères qui allaient être distribués. Et le don d'opérer des guérisons est quelque chose qui ne se raisonne pas. J'ai souvent entendu raisonner ça. Mais c'est lamentable de raisonner ça. On a dit par exemple ceci, guérir, le Seigneur le faisait, c'était nécessaire, puis les apôtres l'ont fait encore un peu après lui, c'était nécessaire parce que on était au début de l'Église, il fallait implanter, mais après ça a disparu, c'était pas nécessaire. Qui dit de pareilles choses? Mais absolument pas, n'est-ce pas? Et puis d'autres ont dit, mais vous savez, le salut, c'est tellement précieux, c'est ce qu'il y a de au-dessus de tout, c'est bien vrai. Alors, la guérison, c'est secondaire, ça intéresse le corps, oui. Vraiment, ceux qui disent ça, quand ils sont malades, ils sont les premiers à courir chez le médecin. Hein? Il dit, c'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Quand on est malade, c'est la volonté de Dieu. Seulement, il résiste à la volonté de Dieu en se faisant soigner à l'hôpital. Hein? Alors, non, tout ça, c'est pas sérieux, n'est-ce pas? Moi, j'ai considéré ces choses-là. Je vous assure, depuis longtemps, et avec attention, si on avait dû se faire à l'idée que le Seigneur avait retiré ses moyens de ses actes de puissance, ce serait incliné. Mais c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça. Et alors, il ne faut pas croire, bien sûr, que le don des guérisons va permettre d'amener à la conversion précisément ceux qui auront été l'objet de ces guérisons. Pas du tout. Dans l'Écriture, vous le voyez, dans la pratique, combien de fois je l'ai vu. Des campagnes d'évangélisation faites avec l'apparition de ces dons, de ces actes de puissance, hein, des gens étaient guéris, bien. Eh bien, quand on voyait après ce qu'il était résulté de cette campagne, mettons trois ou quatre mois plus tard, on avait une église qui était en général beaucoup plus réduite que les auditoires qu'on avait eus au cours de la campagne. Mais que voyait-on? Ça, j'ai constaté cela plus d'une fois. Vous savez, il faut faire ses enquêtes pour voir comment, n'est-ce pas, les choses se font aujourd'hui. Eh bien, que voyait-on? On voyait que ceux qui s'étaient convertis lors de la campagne ou tout de suite après la campagne n'étaient pas toujours ou quelquefois même n'étaient pas du tout ceux qui avaient été l'objet des guérisons, Hein, c'était d'autres. Mais les guérisons qui avaient été opérées chez d'autres avaient déterminé quand même, n'est-ce pas, un succès dans l'évangélisation déjà. Moi, je me rappelle, tenez, à Grolley, dans le Tarn, je crois, c'est dans le Tarn, dans le Tarn, oui. À Grolley, il y avait une campagne qui avait très bien réussi avec des auditoires de 300 personnes dans une vaste salle, hein, bon, et c'est ce qui a permis la fondation de l'église de Grolley. Eh bien, j'y suis allé, j'y suis resté quelque temps là. Et alors, j'ai questionné des gens, hein, et puis plusieurs m'ont dit, « Ah ben nous, on est venus à la foi, parce qu'on a assisté aux réunions, mais ce qui nous a saisi, ça fait, c'est qu'on a vu un voisin qui était là, hein, était malade, il a été guéri. » Bon, et alors je dis, « Et ce voisin, lui ?»« Ah, ce voisin, lui, il n'a pas suivi, il ne veut plus venir, il ne veut plus aller à l'église. » Lui, il a été guéri, il ne vient pas à l'église. Mais les autres qui ont vu cela viennent à l'église. Donc c'est un signe. Ces actes de puissance, n'est-ce pas, interviennent en qualité de signes messianiques. Ce sont des signes messianiques de tous les temps. Alors il faut que l'évangéliste ait ce don. Et puis on peut dire que dans les actes de puissance prend également place une action surnaturelle apportant chez les plus réfractaires parfois la conviction de péché. Ça, je l'ai vu, n'est-ce pas? Cette conviction de péché si nécessaire. Il faut qu'un malade sache qu'il est malade pour qu'il se fasse soigner par le médecin. Eh bien, il faut que nous sachions, n'est-ce pas, que héritier de la chute en Éden, nous avons tous ce mal du péché, cette puissance qui est en nous, le péché dont parle Paul dans Romains 7. Alors ça, il faut le savoir, il faut en avoir la conviction, c'est magnifique, parce que c'est ça qui va nous faire nous engager sur la voie d'une réelle repentance et d'une conversion par un demi-tour complet. Nous pouvons constater qu'il y a une action surnaturelle qui apporte cette conviction de péché. Je vais vous en donner un exemple, et peut-être y pensez-vous à cet exemple. C'est dans Luc 5, parce que ça c'est intéressant, n'est-ce pas? Il faut que nous nous y attardions un petit peu. Vous ne serez pas très bien dans vos chambres avant, je l'estime, 11h. 11h, vous aurez trop chaud, alors par conséquent, vous êtes mieux ici. Bon, alors, Luc 5, vous connaissez ce récit de la pêche miraculeuse, hein? Vous le connaissez. Alors, lisons-le, c'est vite fait. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Alors que se passe-t-il dans cette affaire? Eh bien, Simon et les autres, ses associés, ont pêché, n'est-ce pas, toute la nuit, ça ne répondait pas, bon, ils sont habitués, eux, ils sont des professionnels, ils savent très bien que la pêche marche à certains moments, c'est capricieux, à d'autres moments, il n'y a rien à faire. Bon, alors, Seigneur, on a pêché toute la nuit, il n'y a rien à faire, vaut mieux attendre 2 ou 3 jours, ça reviendra, ben, les vents tourneront, tout ça. Bon. Le Seigneur lui dit de jeter le filet. Bon, alors à cause de ta parole, puisque c'est toi qui le dis, Seigneur, bon, à cause de ta parole, alors je vais le jeter. Bon, je vais le jeter. Je retire mes objections, je vais jeter le filet. Et il jette le filet, et vous voyez, ils opèrent une pêche miraculeuse. Bon. Alors, à ce moment-là, il se produit quelque chose. C'est que Simon, au lieu de se frotter les mains et puis de dire « Oh, magnifique, quelle pêche avons-nous faite, on va pouvoir aller vendre tout ça, on va faire une fortune », au lieu de se frotter les mains, d'être heureux, d'être content, satisfait de ça, non, il s'écroule aux pieds de Jésus. Et puis il dit « Seigneur, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur, si tu savais, Seigneur, si tu savais, si tu connaissais ma vie, si tu connaissais mon cœur, si tu connaissais mes pensées, si tu savais ce que je suis. Mais Seigneur, va-t'en, je ne peux que te souiller. Va-t'en, Seigneur, retire-toi de moi. Qu'est-ce qui se passe chez Pierre et chez les autres aussi, n'est-ce pas, qui sont effrayés? Eh bien, il y a tout simplement cette vue sur leur péché, cette conviction de péché. En somme, un acte de puissance. C'est pas une guérison, c'est une pêche miraculeuse. Mais ça revient au même. Cet acte de puissance, qu'est-ce qu'il a fait, cet acte de puissance? Il a montré la sainteté de Dieu dans la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est toujours révélatrice de la sainteté et de la grandeur de Dieu. Nous sommes des hommes, nous avons bien besoin que Dieu, n'est-ce pas, quand il le veut, selon sa sagesse, manifeste sa puissance. Et alors, cette puissance a révélé la sainteté. Et la sainteté révélée de Dieu a montré la salissure du cœur humain, a montré l'indignité du cœur humain. Et ça c'est vrai. Eh bien, chers amis, dans l'évangélisation, pour en venir à notre ministère d'évangéliste, dans l'évangélisation, par un ministre de l'évangile, c'est ça qui doit se produire. C'est ça, chers amis. Ces convictions de péché, vous savez, si on ne les obtient pas, ça ne peut pas aboutir, n'est-ce pas, à rien faire. Si quelqu'un ne se reconnaît pas vraiment, n'est-ce pas, dans son indignité devant le Seigneur, hein, et s'il n'est pas, Pierre n'était pas plus noir qu'un autre, hein, nous sommes tous, il n'y a pas même à savoir si nous le sommes plus ou moins, nous le sommes tous. Eh bien, cet état de péché, n'est-ce pas, apparaît quand Dieu s'est manifesté dans sa puissance et sa sainteté. Alors, voilà pourquoi, dans l'évangélisation, il faut ces dons de puissance, ils sont nécessaires. Et puis, une troisième chose, nous avons dit qu'il fallait à l'évangéliste, vous voyez, je reste longtemps sur le compte de l'évangéliste, parce que c'est un ministère d'une utilité, évidemment, capitale. Enfin, on pourrait dire pasteur, docteur, c'est très bien, mais si le pasteur et docteur n'ont pas d'âme à enseigner, enfin, c'est pas ce qu'ils feront. Il faut bien que l'évangéliste pourvoie au remplacement de ceux qui s'en vont et puis à la croissance de l'Église. Alors, nous avons dit qu'il y avait le don de la foi, donc qui éveille la foi chez les autres. Puis, le don d'opérer des actes de puissance nécessaires, parce que là, la sainteté de Dieu va montrer l'état du cœur humain. Immédiatement, il y a révélation. Puis, troisièmement, il faut que l'évangéliste dispose de l'amour des âmes. De l'amour des âmes. Si un évangéliste est devant son auditoire et qu'il n'aime pas les armes, qu'il vient là exercer alors comme une sorte de métier, n'est-ce pas, comme un représentant de commerce, il vient vous offrir ses produits, ses instruments, tout ce qu'il a à vendre, n'est-ce pas, et puis il vous dit, mais ça, il vous faut ça, mes amis, il vous faut ça, ça vous est nécessaire, vous allez voir comme vous allez être heureux avec ça, n'est-ce pas. S'en fiche totalement. Ben, c'est pas par amour qu'il fait ça. C'est pour gagner son pain. Hein, le représentant de commerce. Mais l'évangéliste, il n'en est pas de même. S'il offre, lui, le royaume, il n'y a pas de marchandises à offrir, mais il offre le royaume. Et s'il offre le royaume et l'entrée dans le royaume de Dieu, c'est parce que il aime ses âmes. C'est parce qu'il tremble pour ses âmes. C'est parce que il a conscience que ceux qui l'écoutent là sont perdus, comme disait le Seigneur Jésus. Je suis été envoyé vers les perdus et il était ému de compassion pour ceux qui n'avaient pas de berger. Alors, l'évangéliste est là. Moi, j'ai vu un jour un évangéliste, parce que je me suis beaucoup intéressé à ce ministère pour le voir. Ce n'est pas le mien, n'est-ce pas, mais le voir exercer. Bien, j'ai vu, il m'est arrivé de voir, mais il y avait un mouvement de l'esprit vraiment extraordinaire, là, ce jour-là, voir l'évangéliste pleurer. Il pleurait. Tout en annonçant le royaume, il sentait une résistance, il n'était pas convaincu que tous ceux qui étaient là ou ceux qui devaient s'ouvrir étaient encore ouverts, et il pleurait. Il s'acharnait vraiment par amour. Eh bien, ça c'est magnifique, n'est-ce pas ? Alors, un évangéliste qui a son charisme, qui a le don de la foi, le don d'opérer des actes de puissance et l'amour des âmes, alors là, il peut faire beaucoup de choses. C'est l'amour divin qui doit remplir le cœur de l'évangéliste, et l'amour divin dispose d'une puissance rayonnante. Si l'évangéliste parle avec la force de l'amour, son message pénétrera les cœurs, bouleversera les cœurs même, s'introduira dans les plaies morales. Dans les plaies morales, et il déposera la consolation divine. En outre, en raison de l'amour qu'il ressent pour les âmes présentes, l'évangéliste ne pourra pas rester étranger à son message, il sera associé. Un représentant de commerce peut être très éloquent, très convaincant, mais il n'est pas, lui, personnellement, dans le discours qu'il vous tient et dans la marchandise qu'il vous offre. Tandis que l'évangéliste, lui, il est dans son message. Son message, il est dedans. Il y met sa propre personne dans son message. Enfin, l'amour ne se sépare jamais de la vérité. Sachons ceci, c'est que le véritable amour de l'esprit ne se sépare pas de la vérité, si bien que la prédication de cet évangéliste qui est rempli de l'amour des âmes ne pourra qu'exprimer la vérité en toute sa puissance. Ceci étant, nous allons encore devoir parler du ministère de pasteur, mon cher frère, parce que sans ça, nous n'en finirons pas. Alors, il y a donc un ministère désigné par poimen, nous avons dit ce terme grec, poimen, qui veut dire berger. Et pasteur, au pluriel d'ailleurs, ne figure qu'une fois concernant la charge d'un homme, ça je l'ai signalé, c'est dans Éphésiens 4:11. Mais enfin, il faut voir ce qu'est un pasteur. Et je pense que les anciens sont essentiellement des pasteurs. Le pasteur est un berger qui fait paître les brebis. Son rôle, c'est de faire paître les brebis. La figure des pasteurs ayant à faire paître des brebis se trouve largement utilisée dans le chapitre 34 d'Ézéchiel. Là, je ne vais pas revenir, je ne vais pas faire la lecture de ce chapitre. Vous le notez, vous le lirez si vous voulez. Ézéchiel 34. Là, Dieu parle de ses brebis, des pasteurs. Il n'est pas content de certains pasteurs qui se paissent eux-mêmes au lieu de paître les brebis. Ils se paissent eux-mêmes, n'est-ce pas? Et ou alors, il n'est pas content non plus de la brebis grasse qui donne des coups de corne et des coups d'épaule à la brebis maigre, c'est-à-dire la faible, n'est-ce pas? Pour l'empêcher d'avoir sa part de l'herbe verte, ou bien alors il n'est pas content non plus des brebis trop dissipées qui viennent piétiner l'eau. Il y a dans un pâturage toujours une certaine eau douce, limpide, qui coule. Il y a un ruisseau là, et c'est là que les brebis viennent s'abreuver. Mais alors, il y a des brebis qui viennent et puis qui, avec leurs pattes, pataugent là-dedans et troublent l'eau. Et le Seigneur n'est pas content que les autres brebis soient obligées de boire l'eau troublée par certaines brebis. Vous voyez un petit peu la figure que c'est, n'est-ce pas, tout cela. Enfin, vous verrez ça dans Ézéchiel 34. Et alors, cette figure de pastorale est reprise par le Seigneur lui-même en Jean 10. « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Et puis, je donne ma vie pour mes brebis. » Paître le troupeau, telle est bien la délégation que Jésus donne à Pierre. À Pierre, c'est dans Jean 21, c'est bien connu ce passage de la fin de l'évangile de Jean, je vais le relire au verset 15. « Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Et en disant ceux-ci, il désignait les compagnons de Pierre, les autres apôtres. Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes brebis. » C'est magnifique, ce passage. Nous savons que le Seigneur emploie deux verbes, le verbe « agapao » pour aimer, et le verbe « phileo ». « Agapao » qui veut dire « aimer de cet amour de l'esprit », et puis « phileo » qu'on peut traduire par « affectionner ». Si bien que Pierre, qui entend le Seigneur lui dire « m'aimes-tu » avec le verbe « agapao »,« m'aimes-tu » de l'amour de Dieu, alors il va répondre « oui Seigneur, je t'affectionne ». C'est difficile, après avoir renié trois fois le maître, d'employer le terme d'agapao. « Oui Seigneur, tu sais bien que je t'affectionne ». Alors le Seigneur, une seconde fois, emploie encore le terme « agapao ». « M'aimes-tu ? » Et Pierre avait bien entendu ce mot qui avait été employé par Jésus en d'autres occasions. « M'aimes-tu ? » « Oui, Seigneur, je t'affectionne. » Philéo. Et puis alors, après, la troisième fois, le Seigneur lui dit « Pierre ». Pierre, il lui dit « Simon ». Simon, fils de Jonas. Attention, nous sommes après les trois reniements. Le Seigneur n'emploie pas le surnom de Pierre, qui correspond au ministère. Le ministère, certes, va revenir en question, mais il emploie le nom originel, Simon, fils de Jonas, c'est-à-dire l'homme de chair. Il désigne l'homme de chair, l'homme d'avant. Bon, alors, pour la troisième fois, le Seigneur Jésus va dire, « Pierre, M'aimes-tu ? Et alors cette fois-ci, Jésus emploie philéo. Alors il va lui dire, Pierre, m'affectionnes-tu ? Alors, c'est là que Pierre va dire, mais tu sais toutes choses, Seigneur, tu sais bien que je t'affectionne. Et on n'est pas venu à agapéo, on n'a pas agapao, on n'est pas venu vraiment au véritable amour. Et alors, dans le même contexte, le Seigneur emploie deux verbes grecs différents pour paître. Il emploie le verbe bosco et le verbe poimeino. Bosco une fois et poimeino deux fois. Et ensemble, ces deux verbes définissent la fonction pastorale. Et voici en gros ce que cela donne. La fonction pastorale, c'est de marcher d'abord devant les brebis. Marcher devant, comme a fait le Seigneur. Marcher devant. Les brebis, les guider, les conduire au bon pâturage, les abreuver, les surveiller, les défendre. Il y a des loups, il y a des bêtes féroces, les défendre, les protéger des voleurs, des bêtes féroces. Et pour bien remplir cette charge glorieuse, il faudra, ainsi que Jésus en instruit Pierre, qu'un changement survienne en l'homme. Et ce changement, c'est dans le contexte, un peu plus loin, que l'indique le Seigneur, il est celui-ci, « Quand tu seras vieux, dit Jésus à Pierre, c'est-à-dire, quand tu auras pris un peu d'âge. » Nous, vulgairement, on dirait « quand tu auras de la bouteille ». Mais c'est pas très vieux, tout à fait ce qu'il faut. « Quand tu auras pris un peu d'âge, tu seras un peu plus âgé. Tu étendras tes mains. » Tu étendras tes mains. On a déjà le signe de croix. Hein. « Tu étendras tes mains et un autre te ceindra. » Tu seras comme cela, n'est-ce pas ? Et au lieu de mettre toi-même la ceinture, tu tendras les bras, et puis un autre va te serrer la ceinture. Il s'agit de la ceinture qui est près du corps, non pas celle qui soutient la robe, mais celle qui est près du corps et qui permet l'effort. C'est ceindre de cette ceinture-là, c'est donner de la force. Donc un autre te donnera de la force. Tu ne prendras pas ta force à toi. Tu ne vas pas rechercher ta propre force. Un autre te ceindra de force et te mènera où tu ne voudras pas. Ce sera le moment où tu ne feras plus les choses que tu auras toi-même en tête, tu ne feras plus tes propres projets, tu feras ceux de Dieu. Tu iras là où tu n'auras pas calculé d'aller, mais où Dieu te mènera. Voilà. Les enseignements que Jésus donne à son disciple Pierre. Tu apprendras en somme à faire l'opposé de ta volonté propre, ta volonté humaine. Tu apprendras à faire l'opposé. Tu feras l'œuvre de Dieu que tu ne conçois pas. Que tu ne conçois pas pour aller vers la mort. Qui glorifie Dieu. Alors pour aller vers la mort, ça c'est pas réjouissant, pour aller vers la mort. Et alors la Pierre a pu dans ses pensées se dire, mais comment puis-je glorifier Dieu par une mort ? Il me semble que je glorifierais mieux en vivant, par la vie, par le mouvement de la vie, par la force de la vie. Non. Tu me glorifieras par une mort. Mais il y a de quoi méditer là, n'est-ce pas ? Il y a de quoi réfléchir. Mais oui, c'est bien ça. On nous a dit que Pierre avait été crucifié la tête en bas. C'est possible ? C'est pas. Moi, je n'ai jamais eu confirmation de cela. Mais enfin, qu'il ait subi le martyr, ça, c'est sûr. C'est sûr, n'est-ce pas ? Mais il n'est pas. Ça, c'est pour Pierre, n'est-ce pas ? Mais en ce qui nous concerne, nous qui prenons le son aussi de ces choses, eh bien, nous pouvons recueillir cela pour nous et dire, en effet, nous pouvons glorifier le Seigneur. Nous pouvons le glorifier par une mort.
la mort à nous-mêmes, la mort au péché, la mort du Christ en nous. Comme Paul le dit, j'ai été crucifié avec Christ. Paul n'a jamais été cloué à la croix. Pas plus que le roi David, qui l'annonçait déjà aussi, ça. Mais j'ai été crucifié avec Christ. C'est-à-dire, le crucifiement de Jésus-Christ s'est reporté sur moi, a reporté ses conséquences merveilleuses, spirituelles sur moi. Alors, j'ai été crucifié avec Christ, je suis mort avec Christ. C'est, voilà cette mort qui glorifie Dieu et qui permet vraiment de le servir. Et alors, ce sera l'heure de la découverte du vrai Dieu et du véritable service dans l'amour de Dieu. Paître l'Église, et nous allons, nous avons encore quelques petites choses à dire, paître l'Église, c'est collaborer avec le souverain berger Jésus-Christ. Tout comme Moïse avait parti lier avec Dieu pour conduire le peuple d'Israël. Je rappelle ce que dit Marc 16, 20, le Seigneur travaillait avec eux, chaque jour. Le Seigneur travaillait avec ses épouses. Et croyez-vous qu'aujourd'hui il ne travaille pas avec nous? S'il ne travaillait pas avec nous, nous ne ferions rien. Jésus a bien dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Alors, le Seigneur travaille avec nous. Il faut qu'il travaille. Si nous le glorifions par cette mort, le Seigneur travaille avec nous. Le ministère pastoral, donc, ne consiste pas uniquement en une fonction de prédicateur. Ça, alors, on se trompe lourdement lorsqu'on s'imagine que être pasteur, c'est monter sur une estrade et puis faire sa prédication, et puis après se dire, ça y est, c'est fini, c'est fini, bon, fini mon travail. Non, pas du tout. Mais la fonction de le ministère pastoral consiste en bien d'autres œuvres, telles que des entretiens particuliers. Et c'est là qu'il faut des anciens, notamment des entretiens particuliers, des visites à domicile, les visites à domicile des membres d'église ou d'autres. Et Paul le faisait, cela. Paul dit en effet dans le discours de Milet, acte 20-20, « Je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. » Je vous ai enseigné publiquement, dans les rencontres, dans les réunions, et dans les maisons. La surveillance vigilante, ainsi que l'intervention opportune et sage, face aux faux frères, aux faux docteurs, aux chiens, aux mauvais ouvriers, et nous sommes prévenus qu'il y en aura dans l'Église, même des antichrists, nous dit Jean. Eh bien, face à ces gens-là, dont la présence et l'action dans l'Église ou autour de l'Église a toujours été inévitable. Donc, il faut là une surveillance vigilante du ministère pastoral. D'autre part, il importe essentiellement que le pasteur soit rempli, lui aussi, d'amour pour son troupeau et ait un cœur de berger. Un cœur de berger. Si on veut être apôtre, n'est-ce pas? Et c'est ça, il faut avoir un cœur de berger et qu'il connaisse bien chacune de ses brebis. Proverbe 27, 23. Connais bien chacune de tes brebis. Alors, vous savez, on a quelquefois rencontré des jeunes qui vous disaient, « Ah ben moi j'aimerais être pasteur. Ah, » Et si tu es peut-être pasteur, qu'est-ce que tu ferais? Eh bien, c'est vrai comme il fait le pasteur, là, je monte sur l'estrade et puis je prêche devant lui. Moi, j'aimerais prêcher devant lui. Ah, j'aimerais ça, toi. Oui. Est-ce que tu aimes les arbres? Est-ce que tu aimes les eaux? Jusque-là, t'as mené, mon pauvre ami, une vie plutôt égoïste, à penser à toi surtout. Comment veux-tu être pasteur? C'est pas possible, maintenant. Ah, peut-être que le Seigneur va te changer et que tu seras pasteur. Il faut avoir un cœur de berger. Un cœur de berger. Il faut savoir même souffrir pour les âmes. Voilà, chers amis, je m'excuse de cette prolongation. Vous ne pouvez pas faire autrement. J'ai encore laissé un ministère en arrière, celui docteur. On ne va pas aller trop en dire trop. Alors, Le ministère de docteur. Les docteurs sont, selon le terme grec, des didascales. Didascales. Jésus enseignait, et l'enseignement se trouve amplement mentionné dans le Nouveau Testament. Romains 12 nous dit que celui qui enseigne doit s'attacher à son enseignement. Il faut toujours s'attacher à ce qu'on fait. Ça, Dieu le veut. Un cœur de berger, ou l'évangéliste qui a le cœur rempli d'amour et qui tremble pour ses auditeurs. Dans 1 Timothée 5:17, nous lisons que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur sur tous ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Dans l'épître de Jacques, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. L'enseignement de ceux qui reçoivent le don, le charisme, de cette tâche, ne se bornera pas à rendre méthodique le contenu de la Bible ou la doctrine chrétienne. On n'est pas à l'école du monde, n'est-ce pas, qui explique les choses et qui s'adresse uniquement à la raison, à l'intelligence, à la tête. Il ne se bornera pas à ramener la connaissance biblique à une science sur le modèle des connaissances humaines. Mais l'enseignement du docteur, des didascales, devra pouvoir éclairer les textes et en faire sortir les valeurs spirituelles jusqu'à ce qu'elles soient évidentes. Il est probable que les auditeurs ne sauront pas expliquer pourquoi ils ont reconnu l'évidence des vérités qui leur ont été envoyées, mais ils auront reçu cette évidence. Tout d'abord, cet enseignement expliquera les textes, précisera leur sens premier littéral. Il faut commencer par savoir exactement ce que veut dire le texte, le sens littéral. Si on ne part pas d'un texte bien connu, n'est-ce pas, bien compris, alors là, on risque de s'engager à faux. Donc, préciser le sens littéral, le sens premier, et ensuite en faire apercevoir l'esprit. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il faudra ensuite faire apercevoir l'esprit du texte. Puis, l'enseignant ne fera tous les rapprochements utiles pour que le conseil de Dieu s'en dégage. Tout doit donner naissance à un conseil de Dieu, à des leçons qu'il faut recueillir. Il fera également apparaître le dessein de Dieu. Dans les Écritures, il faut découvrir le dessein de Dieu. C'est une grande fresque qui part de la Genèse et qui s'en va jusqu'au bout de l'Apocalypse. Il y a un dessein de Dieu, une grande fresque là. Il faut absolument l'enseigner. Le défaut de connaissance du dessein de Dieu est dommageable. Ce dessein de Dieu, naturellement, s'est développé à travers les siècles, et maintenant, il tend vers son glorieux achèvement qui n'est pas loin. Enfin, à partir des Saintes Écritures, l'enseignant, le docteur, communiquera les leçons de la sagesse, nourrira la foi et augmentera l'amour des auditeurs. Et même si le docteur a recours à la logique, il ne quittera jamais le terrain spirituel en la dépendance où il est, où il doit rester, de l'onction du Saint-Esprit. Amen.